Je voudrais ensuite plaider demander votre indulgence par rapport aux critiques que je vais pouvoir être amené à faire à la fin de ma présentation sur la notion de construction d'objets. Pourquoi je demande votre indulgence, c'est parce que je n'ai pas de formation sociologique. Je suis au départ un agrégé de lettres classiques, je suis un latiniste et helléniste, mais mon objet de recherche, c'est la philosophie antique. Et dans ce travail sur la philosophie antique, l'œuvre de Pierre Bourdieu a été absolument fondamentale. Elle a été absolument fondamentale, mais c'est la partie de cette œuvre qui concerne la sociologie de la culture, disons, que j'ai lue, et non pas la partie de cette œuvre méthodologique. Pour vous dire en un mot, quand Louis Pinto m'a proposé de participer à cette journée d'études, je n'avais même pas conscience de l'existence du livre « Métier de sociologue », ni de celle du livre « Invitation à une sociologie réflexive ». Toute cette partie-là, théorique, méthodologique, je l'ignorais. Je n'ai pas non plus, dans mes auteurs, vous savez, les auteurs qu'on a toujours sous la main, avec qui on travaille, je n'ai pas Marx, je n'ai pas Weber, je n'ai pas Durkheim. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Donc, j'ai découvert la notion de construction d'objets avec l'invitation de Louis Pinto. Donc, je vais dire des bêtises. Donc, les critiques que je ferai à la fin sont peut-être complètement à côté de la plaque. Alors, donc, je me suis renseigné. Du coup, j'ai lu les pages, certaines pages de Pierre Bourdieu sur la notion de construction d'objets. Et évidemment, j'y ai retrouvé une démarche qui est également la mienne en abordant la philosophie antique, c'est-à-dire celle consistant à dire qu'il faut remettre en cause l'idée que le donné s'impose tout seul à nous. Il faut avoir une attitude un peu réflexive par rapport aux données. Mais de quelles données s'agit-il ? En ce qui me concerne, le premier donné qui doit inviter à la réflexivité, c'est moins le donné antique, le donné des textes antiques, que le donné académique. C'est qu'en fait, il y a aussi un donné académique, c'est-à-dire le donné qui nous façonne, qui est tellement donné qu'on oublie de le voir comme donné. Et je partirai de là. Ce sera mon premier point. Et dans l'exemplier que je vous ai donné, j'ai commencé par citer un texte d'Alexandre Coiret, que je trouve très beau, et qui dit « Ce qu'il y a de plus difficile et de plus nécessaire lorsqu'on aborde l'étude d'une pensée qui n'est plus la nôtre, c'est, comme l'a admirablement montré un grand historien, je ne sais pas qui c'est moins d'apprendre ce que l'on ne sait pas et ce que savait le penseur en question, que d'oublier ce que nous savons ou croyons savoir. » Donc, effectivement, je pense que la première chose à faire quand on va aborder l'Antiquité, c'est d'oublier tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons appris à l'école. Donc il faut faire une mise en suspens, j'allais dire à la Descartes, de ce que nous avons appris à l'école. Et ensuite, essayer de construire le donné académique, c'est-à-dire tout ce qui nous a formés, programmé pour lire les textes. Et je citerai, c'est le texte 2, deux lignes de Bourdieu, qui dit « Le fonctionnement classificatoire de la pensée académique et politique interdit l'invention intellectuelle en empêchant le déploiement des fausses antinomies et des fausses divisions. » Donc ce fonctionnement classificatoire de la pensée académique me paraît extrêmement pertinent pour objectiver le donné académique sur la philosophie antique, mais peut-être aussi sur la philosophie en général. Et donc, je vous ai proposé quelques constructions comme ça, qui effectivement essayent de mettre en évidence cet aspect classificatoire. Donc d'abord, vous avez dans le donné académique, le donné disciplinaire. Donc quand on réfléchit sur la philosophie antique, on va réfléchir en termes d'opposition disciplinaire. On va dire que la philosophie s'oppose au théâtre, à la poésie, que la philosophie s'oppose aux sciences, que la philosophie s'oppose à l'art, vous savez, la critique platonicienne de la peinture, etc. Que la philosophie s'oppose à la médecine, l'une s'intéressant à l'âme, l'autre au corps. Que la philosophie s'oppose à la théologie, parce que nous avons été formés, mais cette opposition philosophie-théologie date du Moyen-Âge, en réalité. Dans l'Antiquité, la philosophie est aussi un discours sur les dieux, c'est aussi une science du divin. Donc cette opposition n'a absolument pas lieu d'être. Encore, la philosophie, évidemment, s'oppose à la religion. Là encore, ça n'a pas lieu d'être, puisque dans la philosophie antique, était très généralement une activité religieuse. Je ne rentre pas dans les détails, mais on y reviendra, si vous le voulez, dans la discussion. Et puis, que la philosophie s'oppose au savoir du corps, donc sport, diététique, érotique, alors qu'en réalité, les philosophes, on le verra tout à l'heure, étaient aussi des spécialistes du corps. Donc toute cette construction disciplinaire qui informe le donné académique sur la philosophie antique est non pertinente pour aborder l'Antiquité. Et alors, je vous ai mis une autre construction, ce que j'appelle la ronde des logoi philosophoi, donc des discours philosophiques, des discours savants. C'est en fait comme ça que les anciens se représentaient la philosophie en tant que savoir encyclopédique. Donc, toutes ces disciplines qu'on avait dans la colonne de droite, en fait, elles étaient réunies ensemble et elles formaient la philosophie encyclopédique. Et je parle de ronde parce qu'en effet, c'est une image des anciens. Ils font circuler les savoirs, et cette circulation des savoirs, notamment au banquet, dans les conversations entre lettrés, cette circulation du savoir est une circulation à la ronde. Donc on n'a pas ce schéma d'opposition. Deuxième type de dispositif qui informe les données académiques, ce sont les hiérarchies. Donc non plus l'opposition disciplinaire, mais les hiérarchies. Donc là, j'ai mis dans la colonne de gauche le positif et le négatif dans la colonne de droite. Donc dans le discours académique, toujours sur la philosophie. Donc le philosophie s'oppose aux religieux, le philosophique s'oppose aux techniques. Donc par exemple, dans l'Antiquité, vous avez des philosophes qui se livrent à des actions qui relèvent de la technique, de la magie, alors on va dire non, ça c'est pas des vrais philosophes parce qu'ils sont dans la technique. La philosophie du côté des élites, et ça s'oppose au peuple, qui est plutôt du côté de la religion. La philosophie vise à l'individualisation du sujet, à la subjectivation, pensez à Michel Foucault par exemple, ça s'oppose évidemment au collectif, au social. La philosophie est affaire de discours, elle s'oppose aux images, de communication, c'est déjà en fait en Grèce, c'est déjà les Lumières, on veut communiquer. Relisez les textes de Vernon sur la naissance de la philosophie, par opposition au secret, les prêtres, la religion qui ne veut pas que ça se sache. Puis vous avez bien sûr l'opposition entre rationalité et imagination. Vérité et rhétorique, donc j'ai mis une petite note, c'est une citation de Foucault en disant voilà. La philosophie n'existe qu'au prix du sacrifice de la rhétorique. En réalité, dans l'Antiquité, philosophie et rhétorique sont indissociables. Vous avez encore une opposition hiérarchique entre l'âme et le corps, entre l'abstraction et le concret, entre le sérieux et le jeu. Très important parce que dans l'Antiquité, dans l'expérience sociale de la philosophie, notamment de cette philosophie encyclopédique dont j'ai parlé, la philosophie, elle se vit comme un jeu. C'est le jeu des classes aisées qui s'exerce dans le loisir à la philosophie. Donc quand vous arrivez et que vous dites que la philosophie dans l'expérience sociale des gens, des classes lettrées, mais aussi des classes populaires qui avaient accès aussi à ces spectacles que donnait l'aristocratie et ces grandes conférences de philosophes. Les classes populaires, par exemple, adoraient lire Plotin. On a des textes qui le disent. Elles adoraient également assister à des parodies de problèmes d'Aristote. Bon, ça, ce sont des choses qu'on sait, mais qui sont refoulées par le donné académique. De même, opposition hiérarchique entre l'intériorité et l'extériorité. Entre l'Occident et l'Orient, bien sûr, la philosophie antique, c'est nous, c'est l'Occident. Donc, par exemple, tous les contacts entre les philosophes antiques et, par exemple, les rabbins de l'Empire romain, ça, c'est très, très intéressant, l'espèce de refoulé du juif par l'histoire académique de la philosophie antique est extrêmement intéressant, à mon avis. Mais pas seulement les contacts avec les rabbins, mais les contacts avec les prêtres égyptiens ou encore avec les mages perses. Et puis, bien sûr, l'opposition et Spiritus Caro. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette opposition, Spiritus Caro, je l'ai mise en latin parce que je fais allusion à l'article d'une médiéviste, Anita Guéraud-Jalabert, qui explique que cette opposition est absolument ce qu'elle appelle une matrice d'analogie pour l'Occident médiéval. Et je pense que c'est de là aussi que dérive ce donné académique, au fond. On pourrait montrer comment ça marche. Troisième dispositif dans ce donné académique, c'est l'importance de l'histoire dans l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est une chose très intéressante. Pour nous, il paraît évident que l'histoire de la philosophie fait partie de la discipline philosophique. En réalité, jusqu'au XIXe siècle, l'histoire de la philosophie n'était pas l'affaire des philosophes, n'intéressait pas spécialement les philosophes. Elle relevait plutôt de l'érudition, donc des érudits, des savants, des pasteurs, des théologiens, mais ça n'intéressait pas les philosophes. Il faut vraiment attendre le XIXe siècle, avec Hegel, pour que tout d'un coup, l'enseignement de l'histoire de la philosophie devienne absolument essentiel dans la discipline. Je vous donne un chiffre. Entre 1825 et 1955, en Allemagne, la proportion donc, d'enseignement de l'histoire de la philosophie dans l'enseignement de la philosophie est passée de 25 à 80%. Donc c'est absolument énorme. Et on voit très bien comment ça informe les données académiques, c'est-à-dire que pour nous, bien sûr, l'histoire de la philosophie fait partie de la philosophie, et cette histoire est en grande partie une histoire sacrée. Et c'est très intéressant de voir comment, en fonction des périodes, l'histoire de la philosophie est plus ou moins ouverte à un regard sociologique, au sens large du terme. Je pense en particulier au fait que l'histoire de la philosophie médiévale, qui est traditionnellement une période dominée dans l'histoire de la culture européenne, parce que le Moyen-Âge, c'est les âges obscurs, donc ça intéresse moins la pensée académique, eh bien, ce sont en général des historiens beaucoup plus ouverts à l'approche des sciences sociales que l'histoire de la philosophie antique, qui, elle, reste en grande partie une histoire des idées très désancrées par rapport à la contextualisation sociale. Et là, je fais un petit peu de provocation, mais je pense que Pierre Bourdieu me l'aurait pardonné. Mais je voudrais citer comme exemple de cette importance de la Grèce et de la philosophie dans la pensée des savants contemporains, un texte des méditations pascaliennes. En plus, on est en plein dans un livre de critique de la philosophie, de la limite de la philosophie, et il dit « Le champ philosophique est sans nul doute, le premier champ scolastique qui se soit constitué en s'autonomisant par rapport au champ politique et par rapport au champ religieux, dans la Grèce du 5e siècle avant notre ère. Et l'histoire de ce processus est inséparable, l'histoire du processus qui a conduit de la raison analogique, celle du mythe et du rite, c'est la colonne de droite, le mythe, rite, imaginaire, à la raison logique, celle de la philosophie. Ce champ est affranchi des prescriptions de la sagesse religieuse et les mythes et les rites s'y transforment d'actes pratiques de croyance en objet d'étonnement, d'interrogation théorique. Voilà, on est en plein dans cet émerveillement, dans cet enchantement, pour employer cette vision enchantée de la philosophie antique, que même Pierre Bourdieu partage. Et je pense qu'ici, il est tributaire certainement de ses contacts avec Jean Bollack. Parce qu'effectivement, même chez Jean Bollack, donc avec une histoire de la philosophie qui est en dialogue avec la sociologie, il y a quand même ça qui reste intouchable. Donc c'est voilà, et tout ça est simplement historiquement faux. Voilà. Bon, je ne peux pas argumenter, mais si vous voulez, on y reviendra. J'en ai fini sur mon premier point, le donné académique, donc construction, opposition disciplinaire, hiérarchie, histoire sacrée, et j'en viens aux données antiques. Donc comment construire le donné antique ? Comment construire les textes ? Alors ici, je voudrais peut-être pour compenser ce que je viens de dire, citer un autre texte de Pierre Bourdieu qui a été fondamental pour moi pour comprendre Socrate. Donc ce texte parle de Baudelaire dans le même livre, Méditation pascalienne, et il dit « Nous sommes avec Baudelaire en présence d'un problème d'anthropologie historique, tout aussi difficile que ceux que pose à l'historien ou à l'ethnologue le déchiffrement d'une société inconnue. Mais, du fait de la fausse familiarité que nous procure une longue fréquentation académique, nous ne le savons pas. Un des topics les plus éculés du discours de célébration des classiques, qui a pour effet de les renvoyer dans les limbes comme hors du temps et de l'espace, bien loin en tout cas des débats et des combats du présent, consiste paradoxalement à les décrire comme nos contemporains, nos proches les plus proches, tellement contemporains et tellement proches que nous ne doutons pas un instant de la compréhension apparemment immédiate, en réalité médiatisée par toute notre formation, que nous croyons avoir de leur œuvre. Or, nous sommes, sans le savoir, parfaitement étranger à l'univers social dans lequel se trouvait Baudelaire. Alors, ces lignes-là ont été, pour moi, absolument fondamentales et m'ont permis d'aborder le personnage de Socrate, qui est, comme Baudelaire, on pourrait dire absolument tout ce que dit Bourdieu de Baudelaire peut se dire de Socrate. Bon, c'est notre contemporain, le plus proche, etc. Connais-toi toi-même. Et en réalité, il suffit de lire l'Apologie de Socrate de Platon pour voir qu'en fait, Socrate se présente comme un homme envoyé à la cité d'Athènes par Apollon. Il est au service du dieu. Il est même plus qu'au service, il parle de servage, latreia, hein, idolâtrie, c'est le servage des images. Donc le mot latreia, c'est vraiment, il est le serf du dieu. Et il est envoyé en mission par le dieu pour ramener les Athéniens à la conscience de leurs limites, parce que les Athéniens sont devenus très arrogants, à la tête d'un empire, ils commencent à plus croire aux dieux. Donc le dieu l'envoie pour rappeler aux hommes que la science n'est rien. La science humaine n'est rien. Donc en fait, quand on dit « je sais que je ne sais rien », bon, c'est très humaniste, mais en réalité, non. C'est pris dans une démarche religieuse de rappel au divin. Alors, donc face à ce donné antique, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire de construction d'objets? Bon. Alors, il y a plusieurs textes de Bourdieu sur la construction d'objets. Premièrement, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il parle, la construction d'objets s'apparente à une construction d'espace. Il dit, texte 8, l'effort pour se mettre à la place de l'auteur n'est fondé que si l'on sait donner les moyens de construire cette place comme telle, c'est-à-dire comme une position, un point, principe d'un point de vue, dans un espace social. Donc ça, c'est très important, effectivement. Donc là, je viens, par exemple, de travailler sur Lucrèce. On peut lire couramment, par exemple, qu'à Rome, Lucrèce a écrit un traité philosophique épicurien en vers, et que Cicéron a réagi de telle façon, Jules César a réagi de telle façon. Et en fait, on met à ce moment-là dans un même espace des gens qui appartiennent à des espaces différents. Cicéron et César appartiennent au champ aristocratique, politique. Lucrèce a le statut social d'un poète professionnel. Donc, il est absolument impossible, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais il était impossible qu'il y ait eu d'interaction sociologique entre la publication du poème de Lucrèce et une réaction, du coup, de César. Ce n'est pas le même espace. Donc, construction d'espace est effectivement fondamentale quand on aborde un texte philosophique antique, de se demander à quel espace ça appartient. Où ça se, donc, construire l'espace. Deuxième possibilité de compréhension de la construction d'objets, c'est la construction de problèmes, construire des problèmes. Donc, je cite encore Pierre Bourdieu. C'est à propos du totémisme. Il dit, enfin, avec Champbaudon et Passeron, « Une fois abandonnée la théorie qui les réunissait, les faits de totémisme retournent à l'état de poussière de données, d'où une théorie les avait tirés pour un temps, et d'où une autre théorie ne pourrait les tirer qu'en leur conférant un autre sens. » Donc ça, c'est pour nous dire qu'en fait, les faits ne parlent pas, et qu'en fait, c'est la théorie qui les fait exister. « Les data les plus riches ne saurait jamais répondre complètement. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que je vais discuter tout à l'heure, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Les data les plus riches ne sauraient jamais répondre complètement et adéquatement à des questions pour lesquelles et par lesquelles ils n'ont pas été construits. Donc voilà. Ici, donc, effectivement, la construction d'objets s'apparente à une construction sous la forme de questions. Donc en fait, il faut construire des questions. Construire un espace, construire des questions, construire des problèmes. Donc sur ce point, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette notion, avec cette démarche. Maintenant, je voudrais passer à une discussion et prendre le contre-pied de ce que dit Pierre Bourdieu, citant Henri Poincaré, qui dit « les faits ne parlent pas ». Je voudrais défendre l'idée que si les faits parlent, c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant, enfin essayer de vous montrer. Premièrement, je dirais que les faits parlent à condition de les laisser parler déjà. Condition de les laisser parler, ça veut dire déjà de ne pas leur imposer des catégories, des mots qui ne sont pas les leurs. Alors, je voudrais vous citer deux exemples. Premièrement, c'est un savant qui a dirigé un livre qui s'appelle « Du mythe à la raison », point d'interrogation, qui essaye de mettre en cause donc ce grand récit de la naissance de la philosophie en Grèce, donc on passe du religieux au rationnel, du mythe à la raison. Et il fait cet aveu que je trouve remarquable d'honnêteté, parce qu'il dit « il semble que nous ayons atteint un point où non seulement donc le « the Greek achievement », donc la réussite grecque, a plus du mirage que du miracle », mais où nous sommes en réalité laissés sans vocabulaire pour décrire les événements qui jadis furent, qui jadis parurent constituer cette réussite. Donc il dit voilà, aujourd'hui on n'ose plus trop parler de miracle grec, mais d'un autre côté, du coup on n'a plus de mots pour parler de ces faits. Et avant de commenter ça, je voudrais citer le témoignage d'un collègue à qui j'avais écrit en travaillant sur Lucrèce, en l'interrogeant sur la notion de poésie didactique, qui est une catégorie qu'on emploie fréquemment pour parler de Lucrèce. On dit il n'a pas écrit une poésie épique, mais une poésie didactique, donc qui transmet le savoir par des vers. Et j'essayais de comprendre chez les anciens comment cette opposition fonctionnait. Épopée, poésie didactique. Puis je trouvais rien. Alors j'ai écrit à ce collègue en disant est-ce que vous pouvez me dire si cette notion apparaît dans l'Antiquité? Je suis un peu perdu, je ne comprends pas. Et ce collègue m'a répondu avec, là encore, beaucoup d'honnêteté. J'avoue ne pas savoir répondre à votre question. Je n'ai pas le sentiment que l'appellation apparaisse dans l'Antiquité. Il me semble qu'il s'agit surtout de spécifier une partie de la poésie hexamétrique, a priori épique, qui n'est pas épique par le choix de sa thématique. Donc là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que même si la notion n'apparaît pas, eh bien, l'historien va quand même introduire cette notion dans l'Antiquité à partir d'une opposition thématique. Il y aurait des thèmes plutôt liés à l'épopée et d'autres pas, mais cette opposition des deux formes de poésie en termes de thèmes est, là encore, fait partie de données académiques modernes. Voilà, parce que dans l'Antiquité, on ne distinguait pas en fonction des thèmes. Et on n'opposait pas épopée et poésie didactique. Vous voyez, donc ça, encore, je pense que pour que les faits parlent, il faut préalablement les laisser parler. Et pour revenir à ce que dit l'auteur anglais, ne pas se dire « nous sommes laissés sans vocabulaire », mais se dire « mais quel est leur vocabulaire ? Quel est leur vocabulaire ? Eux ont un vocabulaire pour parler de tout ça. » Deuxièmement, je voudrais vous livrer quelques témoignages antiques bruts, justement. Et là encore, je voudrais discuter l'idée que l'empirique ne parle pas tout seul, qu'on ne peut pas juste enregistrer, etc., etc. Je voudrais vous montrer des textes. Vous n'êtes pas antiquisant, je pense, pour la plupart. Et je pense qu'en lisant ces textes, on peut enregistrer quand même des choses qui transforment notre façon de voir la philosophie antique. Donc, par exemple, vous avez Gorgias. C'est quelqu'un qui nous est présenté comme un rhéteur, un sophiste. Et nous avons une inscription sur lui qui dit « Personne avant Gorgias n'avait découvert l'art d'entraîner l'âme aux joutes où l'on rivalise de valeur. » Donc là, on a un Gorgias en maître d'éthique. Deuxième exemple, vous avez un argument de Socrate en faveur de la providence. Pour montrer que les dieux gouvernent le monde, il dit que pour les autres animaux, les dieux ont limité les plaisirs de l'amour à une saison, c'est la saison des amours, mais nous, ils nous ont accordé de les goûter sans interruption jusqu'à la vieillesse. C'est étonnant, je pense que là, on peut enregistrer ça. Et... Troisième témoignage, Platon, Spesip et leurs disciples instituèrent ces réunions, donc les réunions de l'académie, de l'école philosophique, afin de montrer qu'ils rendaient un culte aux dieux, et qu'ils se comportent les uns avec les autres en conformité avec la nature, mais surtout parce qu'ils visaient la détente et le plaisir des entretiens savants. Et puis une lettre de Platon, quand quelqu'un me consulte sur un des points les plus importants de son existence, par exemple l'acquisition des richesses, ou le soin du corps, ou de l'âme. Donc voilà, Platon en conseiller patrimoine, en conseiller diététique. Et puis, dernier exemple, c'est Épicure qui dit à un disciple, ne l'oublie jamais, alors que tu étais né mortel, avec une vie bornée, tu es monté, grâce à la science de la nature, c'est Épicure, jusqu'à l'éternité et l'infini des choses, et que tu as vu ce qui est, ce qui sera et ce qui fut. Ce qui est, ce qui sera et ce qui fut, c'est la sagesse archaïque en Grèce. Donc là, voilà, ce sont des exemples choisis pour dire que, à mon avis, pour peu qu'on entende, qu'on ne ferme pas l'oreille, le donné parle, les faits parlent. Et puis, pour terminer, je dirais que il y a un aspect de la construction d'objets également, que je trouve, que je voudrais également discuter. Et c'est justement ce refus, à mon avis, extrême de l'empirisme. Bourdieu, Chambordon et Passeron écrivent, ils parlent de la science moderne, une hypothèse comme celle de l'inertie n'a pu être conquise et construite qu'au prix d'un coup d'État théorique. L'expression est vraiment très forte, un coup d'État théorique qui, ne trouvant aucun appui dans les suggestions de l'expérience, donc vraiment aucun appui dans l'expérience, ne pouvait se légitimer que par la cohérence du défi d'imagination lancé aux faits et aux images naïves ou savantes des faits. Alors, ça, c'est vraiment assez étonnant. C'est peut-être vrai dans le cas de l'hypothèse de l'inertie, mais je ne sais pas si on peut généraliser cette démarche aux sciences de l'homme en général. Et puis, un dernier texte allant dans ce sens, pour rompre avec la passé, ça, c'est dans un texte beaucoup plus récent, Invitation à la sociologie réflexive, il dit, pour rompre avec la passivité empiriste, qui ne fait que ratifier les préconstructions du sens commun, il ne s'agit pas de proposer de grandes constructions théoriques vides, mais d'aborder un cas empirique, et ça, je trouve ça vraiment extrêmement fort, et à mon avis, je trouve excessif, enfin, en tout cas, je ne comprends pas, avec l'intention de construire un modèle, il souligne modèle, qui n'a pas besoin de revêtir une forme mathématique ou formalisée pour être rigoureux, de lier les données pertinentes de telle manière qu'elles fonctionnent comme un programme de recherche posant des questions systématiques, propres à recevoir des réponses systématiques. Bref, de construire un système cohérent de relations qui doit être mis à l'épreuve en tant que tel. Alors peut-être que le texte est trop abstrait pour être vraiment... Peut-être je ne comprends pas, encore une fois. Mais ce que j'entends là, dans ce genre de texte, c'est une clôture. Une fermeture. Il me semble que si on aborde le donné avec un modèle aussi cohérent, aussi systématique, je crains qu'on ne puisse pas laisser les faits parler. Je vous remercie.
Merci. Donc, nous allons passer à l'exposé.
Bon, merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'avais proposé à lui.